création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Depuis une dizaine d'années, de mystérieux flashs sont observés dans le domaine des ondes radio. Il semble qu'ils témoignent de phénomènes cosmiques lointains, libérant en un bref instant une quantité considérable d'énergie. Différents modèles ont été proposés pour expliquer leur origine. Celui d'Aurélien Barrault inclut des effets de gravitation quantique faisant rebondir les trous noirs en troublant. L'astrophysicien s'intéresse aussi aux univers parallèles à notre propre monde ou multivers. Avec lui ce soir, Hélène Colomb, traductrice de l'exégèse de Philippe Kadic, et Jérôme Schmitt, éditeur de Jérusalem, du documentariste Alan Moore. Mille fois tout, création, on air.
C'est difficile d'isoler un passage parce que ça fait toujours allusion à quelque chose qui précède. Fragment 79.1.9. Ces points me paraissent évidents. Je poursuis une prodigieuse quête spirituelle. Elle implique tous les aspects de ma vie. 2. Elle implique tout ce que j'écris, mais ne s'en tient pas là. 3. Je progresse dans cette quête. Ça résume très bien l'exégèse.
Mille fois tout. Gaël Gillon, Christian Rosset.
I suppose that in Jerusalem, one of the main things that I wanted to achieve was to make a connection with
Alan Moore,
the ancestors, if you like. This is, of course, a very important feature of a lot of communities throughout the world.
Jérusalem, c'est un livre donc là qui doit faire 4 millions de signes. Donc dans l'édition, 4 millions de signes, déjà ça fait peur. Et en impression, ça doit faire 1300 pages environ.
L'exégèse de Philippe Kadic, c'est le nom que lui-même a donné
Hélène Colomb
à un énorme corpus principalement manuscrit qui a été retrouvé après sa mort.
J'avais de frappe machine.
Sur la fin, quelques passages sont dactylographiés. On ne sait pas pourquoi. Ils sont datés aussi, alors que les fragments manuscrits sont plus fiévreusement rédigés à la va-vite un peu parfois. Tout ça a été retrouvé donc après sa mort et récupéré par son exécuteur testamentaire pour ce qui est de la littérature, Paul Williams, et qui a mis un peu d'ordre, qui a essayé de rétablir une chronologie puisqu'il s'agissait d'un nombre de boîtes dans lesquelles était rangé un total de, je crois qu'on dit, à peu près 9000 feuillets.
En fait, Moore, sa démarche dans Jérusalem.
Jérôme Schmitt.
Jérusalem étant le surnom qu'il donne à sa ville natale, Northampton. C'est non pas d'arpenter de manière plane toute la ville de manière exhaustive, mais c'est de prendre un micro-quartier qui sont les boroughs, le quartier ouvrier où il est né, où il vit encore, et en fait d'en faire une sorte de nous emmener dans un ascenseur à la fois temporel, spatial, et de faire une sorte de carotte, comme on dit quand on fore un sol, qui va du centre de la Terre jusqu'au plus haut du ciel. Et effectivement, Alan Moore est à la fois un narrateur assez démiurge, mais il nous laisse vraiment convoquer tous les personnages qui ont traversé aussi la temporalité de cette ville. Et c'est ce qui est assez unique en son genre, puisque c'est une sorte de psychogéographie temporelle, si on peut dire.
But in the West, particularly in England,
il invente tout, bien sûr. C'est le principe. Chacun de ces personnages, c'est des personnages qui sont travestis de la réalité. À la fois l'héroïne principale, qui est une sorte de mix de lui-même et de femmes qu'il a croisées dans les rues des boroughs. Et il convoque aussi beaucoup de personnalités qui sont passées dans la ville, puisqu'en fait, Northampton était... coup de chance pour Moore, est doté d'un énorme hôpital psychiatrique où sont passées énormément de personnalités, dont la fille de Joyce, mais aussi bien des pop stars comme Michael Jackson, Donc voilà, donc il convoque un peu tous les esprits, les âmes qui flottent encore là-bas. Et on ne sait pas s'ils sont vraiment passés, mais en tout cas, ils y flottent.
Philippe K. Dick.
My relationship with the United States has always been a very bad one. It has always seemed to me.
Il y a des moments où, à force d'être immergé dans un texte aussi intime, puisque l'auteur était, je pense, plus dans une démarche de l'exégèse de ses propres écrits, de ses propres expériences et de son propre vécu en général, à force donc d'être immergé dans ce dialogue intérieur couché par écrit, on a l'impression d'être un témoin privilégié, disons.
En fait, on ne peut pas se glisser dans la peau de quelqu'un, mais on peut pénétrer sa tête.
Oui, ou c'est l'inverse. Peut-être que c'est sa tête qui, qui pénètre le pauvre traducteur ou la pauvre traductrice qui se retrouve à essayer de restituer dans une langue étrangère une pensée qui est quand même extrêmement originale, très foisonnante, mais aussi... parfois délirante, hein, faut dire ce qui est. Et on peut à certains moments être contaminé. Il m'est arrivé de faire des cauchemars, par exemple, que j'attribue à l'immersion dans ce texte.
C'est une pensée univers.
C'est sûr qu'il résonne en termes très 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 vastes. Il est quand même exclusivement question de transcendance. Donc l'univers, le mot revêt plusieurs sens. Au fil du livre, il n'est pas seulement au sens physique, astrophysique, même pas seulement forcément métaphysique non plus. Il va davantage vers la tentative de construction d'une cosmogonie, Philippe K. Dick. Mais au moins jusqu'aux trois quarts de son exégèse. Après, on sent qu'il a... n'est pas parvenu au bout de sa quête, mais il a décidé de finalement se contenter d'un message qui lui convient relativement, c'est-à-dire le message chrétien, dont il était parti. Enfin, il ne l'a jamais vraiment quitté, mais il a fait un grand détour pour finir finalement y revenir sur la fin.
Toutes les questions qu'on se pose, toutes les choses qu'on interroge, la réponse ne pourra arriver que quand on sera plus là. Une vie ne suffit pas pour épuiser le moindre questionnement, la moindre ouverture, la moindre idée qu'on peut avoir.
Oui, et en même temps, je ne sais même pas si la réponse arrivera un jour finalement. Parce que moi, j'ai de plus en plus l'impression que une réponse satisfaisante, ce n'est jamais quelque chose qui épuise la question. C'est simplement une sorte de lien, c'est un pont, une passe, un tiret entre un savoir supposé et une habitude, finalement.
Aurélien Barreau.
Et donc, c'est vrai qu'on n'épuise pas les réponses aux questions, mais finalement, il me semble qu'on apprend à vivre avec ce sens qui est un peu en suspension et qui n'est plus là pour toucher le fondement, qui est plutôt là pour créer une sorte de rhizome, comme ça, entre des ressentis, ou des expériences, ou des habitudes, ou des choses finalement qu'on a intégrées, et qui nous sont accessibles, sans être jamais comprises.
On pourrait parler de l'univers multiple du questionnement.
Ah mais moi je suis persuadé que les univers multiples, ils font effraction aujourd'hui, mais finalement depuis toujours, parce que on y pense depuis Anaximandre et depuis Démocrite, donc c'est une idée qui a 25 siècles, qui traverse toute l'histoire des idées, mais je crois qu'aujourd'hui plus que jamais, ils font effraction dans tous les champs cognitifs, parce que c'est amusant, dans mon domaine en astrophysique, on les voit apparaître, et ils suscitent des controverses à n'en pas finir.
On les voit ?
Ah, il est vrai que la vision à laquelle je réfère ici est un peu métaphorique, parce que finalement...
Elle est
mentale. Voilà, on ne voit finalement jamais rien, mais voir, c'est percevoir, en quelque sorte, et c'est aussi conceptualisé, et c'est aussi inventé, et là on fait face à une intrication indépassable entre le découvreur et le créateur, et puis on est obligé, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter que nous sommes les deux simultanément. Mais le multivers, c'est pas seulement l'astrophysique, c'est aussi notre capacité à fabriquer des mondes, et ça... J'aime bien cette idée parce qu'elle est inactuelle. En ce moment, on a envie de se croire les découvreurs de l'unique vérité. On a besoin, comme ça, de ce socle qui doit être absolument commun. Et finalement, le concept de multivers, il est peut-être un peu dangereux, mais moi, je crois qu'il mérite d'être exploré parce qu'il nous met face à notre démiurgie incompressible. Nous sommes tous aussi un peu des créateurs, et tant pis si ça fait peur, parce qu'après tout, c'est vrai.
Whispered stories between grown-ups about a distant relative who wasn't really spoken about in front of the children. This was part of the texture of my life growing up, and there were still enough people around when I started Jerusalem.
Il capture les esprits comme Nabokov capturait des papillons.
C'est ça, oui. C'est le petit Alan Moore avec son filet à papillons et à esprits. Il a mis 20 ans à écrire ce livre. Il a mis 20 ans à arpenter ses rues, à aller dans les entrailles de la ville, à aller dans les églises, à traîner autour du Saint-Sépulcre, puisque c'est un des Saint-Sépulcres, une église du Saint-Sépulcre qui est centrale à Northampton. Et il a comme précepte de départ de dire que Northampton est le centre du monde. Et que tout en fait s'y rapporte et qu'on peut résumer l'histoire de l'humanité à partir de ce quartier ouvrier de Boroughs. C'est un clin d'œil bien évidemment, mais c'est aussi important puisque ce livre, ça peut se lire aussi comme un roman ouvrier, ce qui est assez rare, puisque c'est pas un roman ouvrier c'est un roman ouvrier qui regarde la classe ouvrière dont il fait partie à son niveau, qui les prend comme part entière de l'histoire avec un grand H. Et qui n'en fait pas ni des miséreux, ni obligatoirement une contre-classe, mais une classe vraiment active qui produit de la littérature.
Il en fait un peu des saints.
Oui, il en fait des saints, mais il transforme les ouvriers en des saints, mais sans non plus avoir une sorte de fascination à la fois du pauvre R, de l'ouvrier qui travaille contre le bourgeois, qui se remplit, etc. Donc c'est ce qui est très agréable, je trouve, dans Jérusalem. C'est une sorte d'aplanissement global de toutes les classes, en fait, qui sont toutes présentes, qui sont toutes actives et qui ont tout un rôle dans la société. Donc il essaye de remettre au cœur, en fait, de la narration, une narration populaire avec des classes populaires.
L'homme, c'est à la fois donc un multivers lui-même, tout en étant, comme je l'avais noté quelque part, trois fois rien. C'est-à-dire, c'est quand on parle de l'homme haut comme trois pommes, pour faire des comptines, l'homme qui est cette espèce de poussière à l'échelle de l'infini est en même temps un multivers, mais on retombe un peu dans la vieille fiction. Les hommes se sont toujours considérés comme étant entre deux extrêmes, qu'entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, ce qui est assez pratique puisqu'on ne sait jamais jusqu'où on peut aller.
C'est assez drôle d'ailleurs cette histoire, parce que si on fait la moyenne géométrique entre la plus petite échelle de la physique, qu'on appelle la longueur de Planck, et la plus grande échelle finalement de la physique, qui est la taille de l'univers observable, bah on trouve quelque chose qui n'est pas loin de la taille des animaux. On trouve quelque chose, je crois, qui est de l'ordre du millimètre, peut-être un peu moins, mais le millimètre c'est très proche de la taille d'un homme, d'un ver de terre ou d'une sauterelle. Et donc c'est peut-être pas par hasard que le vivant se place exactement entre les deux extrêmes, entre le plus petit qui se puisse penser et le plus grand qui se puisse concevoir. Finalement, c'est très bien parce que on est suffisamment gros pour avoir un réservoir de complexité et on est suffisamment petit pour avoir encore un espace quasi infini à explorer. Donc c'est une échelle bien choisie, ouais.
Mais un peu comme quelqu'un qui aurait fait un voyage dans l'espace infini pour revenir au point de départ, s'apercevoir, c'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace, mais l'idée que si on va à l'infini, on va au plus loin dans le cosmos, on arrive presque chez soi.
Une odyssée, c'est un mot excellent, je trouve, qui résume vraiment excellemment ce voyage que Dick a entrepris au bout de lui-même. Oui, c'est tout à fait ça. Il finit par y revenir, mais après avoir quand même fait le tour de beaucoup de galaxies, de sens.
Un peu Ulysse.
Oui.
Mais c'est qui sa Pénélope, alors?
L'écriture, j'imagine. L'écriture, oui.
Mille fois tout, ça veut dire quelque chose?
Ça pourrait presque vouloir dire quelque chose, parce que en mathématiques, on a compris que l'infini était un concept subtil. Il y a plusieurs infinis. Par exemple, l'infini d'ombres entiers est un infini pauvre. 1, 2, 3, 4, 5, on peut aller jusqu'à l'infini, mais c'est un infini dénombrable. L'infini des nombres réels, par exemple, est beaucoup plus riche, parce qu'entre deux nombres réels, on peut toujours caser une infinité de nombres réels. C'est un infini dense, en quelque sorte. Donc, oui, il me semble que même à partir de l'infini, on peut encore créer un au-delà. Et cet au-delà n'est pas forcément un ailleurs. Cet au-delà peut aussi être un interne. Parce que justement, l'infini du mathématicien n'est pas l'infini hegelien. C'est pas cette espèce de totalité absolue qui englobe ce qui est et ce qui n'est pas encore et ce qui sera dans une dialectique sans fin. L'infini mathématique, il est très défini, pourrait-on dire paradoxalement. Une droite est infiniment longue et elle ne recouvre pas la totalité des possibles. Donc finalement, un peu comme le multivers, peut-être qu'il est temps de penser la multiplicité des infinis.
Tout ça est dans sa tête en même temps. Tout ça est uniquement dans sa tête, ouais, je pense, avant tout. C'est quelqu'un qui ne voyage pas. Jérusalem, c'est un livre statique. Il faut imaginer Moore pendant 20 ans dans son bureau des Boroughs de Northampton, en train d'écrire ce livre, sans connexion Internet. Il n'en a pas, puisque c'est son voisin qui lui imprime des mails, que lui fait suivre son agent, et qui lui amène comme à l'heure du courrier. Comme ça, ils ouvrent le courrier physique et le courrier email en même temps. Il faut imaginer Moore fumer beaucoup d'herbes chaque jour, ne pas bouger de son bureau, faire un tour, regarder les quartiers des Boroughs, parler aux gens qui y habitent encore, aux mémoires, faire une sorte de travail assez anglo-saxon de mémoire orale, en fait, un travail d'enregistrement de la mémoire culturelle, populaire, ouvrière. Quand moi je suis allé à Northampton faire un film pour Arte, j'y suis allé une première fois il y a cela 2 ans. Il y avait encore quasiment tous les boroughs qui étaient construits. Puis on y retournait 2 fois. Et à chaque fois qu'on y allait, donc en repérage pour voir ce qu'on allait tourner avec l'auteur, et à chaque fois qu'on y allait, il y avait un bâtiment qui disparaissait. Il y avait des pelleteuses qui arrivaient sur la droite. Il y avait des maisons en ruine qui s'écoulaient de plus en plus. Des familles qui partaient. Et la dernière fois on y est allé, c'était il y a 6 mois environ. Tout le centre des boroughs, qui était auparavant une rue où passaient les carrioles, où il y avait tous les pubs, c'était le coin où il y avait le plus de pubs, je ne sais plus, il le dit dans le livre, il y avait 80 pubs dans ces deux rues qui formaient les boroughs, et bien cette rue était entièrement rasée. Et le temps qu'on reste à Northampton en 4 jours, les pelleteuses avaient fait le boulot.
Lui-même en était venu à considérer la Terre comme un être vivant. Bon, il n'est pas le seul, je sais que ça existe depuis très très longtemps, mais un être vivant sur lequel on infligeait, enfin, à qui on infligeait des stigmates par l'enfouissement des déchets nucléaires et la construction de nouvelles centrales nucléaires. Il était très, sur la fin de sa vie, très préoccupé par ça, et il avait même eu la vision d'un être humain qui portait ses stigmates aussi sur lui-même, qui était un habitant du sud de l'Inde ou de Ceylan, j'ai un petit trou de mémoire pour le moment, et qui était handicapé, invalide, brûlé sur toute la partie inférieure de son corps. Et pour Philip K. Dick, il ne faisait pas de doute que cette personne-là était une espèce de nouveau Christ qui est venu pour racheter les péchés de l'humanité et qui les portait sous forme de stigmates sur son corps.
C'est en train de devenir une ville fantôme.
Alors, je crois que c'est une ville fantôme depuis très longtemps déjà. Il faut vraiment imaginer quand Moore dit que Northampton est une Jérusalem et que c'est le centre du monde, c'est à la fois ironique et affectif, et c'est même plein de sentiments positifs en fait, cette ville qui est vraiment une ville qui a été détruite, brisée par les années Thatcher et les années Blair, de manière ouverte et de manière cachée pour le second. C'est pourtant à une demi-heure de Londres, de la richesse de Londres, des quartiers 5 étoiles de Londres, et on est vraiment dans une population qui est minée par le chômage, par l'alcoolisme, par le manque même d'offres culturelles, puisque Moore, c'est le seul personnage de la ville encore vivant en tout cas, et il finance les écoles, il finance les bibliothèques, il finance les centres d'accueil pour les jeunes migrants, enfin il a vraiment une action locale pour essayer de faire survivre cette ville avec son identité ouvrière, et que les enfants en fait des boroughs actuels aient la même chance que lui en tout cas, avoir le droit de s'ouvrir au monde.
Multivers, c'est comment on pourrait dire ce que c'est en peu de mots?
Moi je crois qu'on peut pas. Il faut accepter peut-être l'idée que certaines choses ne peuvent pas être synthétisées en quelques phrases.
Et même pas en quelques livres.
Et même pas en quelques livres. C'est pourquoi mon travail est absolument vain, j'en suis conscient, mais cette mélancolie me réjouit plutôt finalement. Non, multivers. Pour moi, c'est l'idée qu'il y a de l'ailleurs. Il y a de l'ailleurs. Un univers, c'est quoi? Du point de vue astrophysique, on peut le définir. En termes techniques, c'est une sphère de Hubble, c'est l'ensemble de ce qui est causalement corrélé à un observateur. Mais ça, c'est une définition qui est spécifiquement scientifique. Un univers, c'est un monde à part entière, c'est quelque chose qui croyait n'avoir aucune interaction avec un extérieur, jusqu'à ce qu'on découvre que finalement, cette extériorité, elle est vitale. C'est un peu aussi ce que dit notre ami commun, le philosophe Jean-Luc Nancy, en essayant de sortir du piège de l'immanence, finalement, qui est de croire que il n'y a pas d'ailleurs. Si finalement l'être, c'est toujours d'abord un être tourné vers l'extérieur, quand bien même cet extérieur nous serait inaccessible. Et pour moi, le multivers, c'est finalement fondamentalement la prise de conscience que rien n'est absolument donné. C'est-à-dire que ce qui se dévoile suite à un travail, que ce travail, c'est à la fois un geste d'humilité, parce que, et tant mieux, le monde n'est pas contractuel, le monde n'est pas ce que nous décidons. On construit un instrument à 10 milliards de dollars au CERN pour essayer de trouver des particules supersymétriques, et on les trouve pas. Ça ne veut pas dire que c'est un échec, on a vu d'autres choses par ailleurs. Mais ça, c'est très beau. La nature nous dit, votre théorie était géniale, elle était belle, elle était cohérente, mais elle est fausse. Ça, c'est magnifique, mais en contrepoint de ça, il y a quand même une liberté qui est quasi infinie.
Toute sa pensée dans cette exégèse, elle se concentre, elle se consacre à la tâche de construire des systèmes. En fait, et il était à la fois capable de mener toutes ses réflexions parallèlement de manière nocturne, par écrit, et pendant la journée, de fonctionner presque normalement, avec des troubles de la personnalité qui le rendaient difficile à vivre d'après les témoignages, mais il donnait le change, il était fonctionnel. Quelqu'un de très complexe, très, très complexé aussi, mais qui arrivait à mener tout de front. Le seul problème, c'est qu'il a aussi, pour arriver à mener tout de front, il a aussi absorbé beaucoup de substances excitantes au cours de sa vie, et qu'elles ont fini par avoir sa peau.
Elle part, elle demande une indication pour se perdre. Personne ne sait.
Ce que dit, je crois, ici Marguerite Duras, c'est que c'est extrêmement difficile de se perdre. Trouver son chemin, parfois, nous donne du fil à retordre, mais ne trouver aucun chemin, c'est-à-dire être confronté pendant un instant à cette espèce de folie du sens. Nancy, encore lui, disait « il n'y a pas de sens du sens, et cela est adorable ». Ce mot adorable est génial, parce que il est à la fois mignon, et il est à la fois mystique. Et c'est exactement ça. Il est difficile, de temps en temps, de perdre le sens. Moi, je vois ça un peu Bah, peut-être c'est assez métaphorique, mais comme le geste du peintre Paul Cézanne qui d'un seul coup essayait de nous donner à voir un monde antéprédicatif, c'est-à-dire les choses avant qu'on projette sur elles les concepts. Être à nouveau perdu dans les choses, ne pas voir une maison pour une maison ou une meule de foin pour une meule de foin, mais voir des formes pures. Et si on veut reconstruire le réel, et après tout c'est notre métier, qu'on soit artiste ou chercheur, on est toujours en train de reconstruire le réel, d'ailleurs les artistes sont des chercheurs, et des trouveurs, comme dirait Picasso, eh bien, il faut d'abord commencer par se perdre. Et c'est peut-être le plus dur. Et moi c'est ce que je dis à mes étudiants, ils ont du mal avec cette idée. Cette idée que penser, avant de trouver une réponse, c'est conceptualiser une question qui n'existe pas encore. Donc, parvenir à se perdre dans notre lieu, c'est très dur.
Northampton, c'est plus petit qu'un arrondissement parisien, beaucoup plus. Et il y a une sorte de ring, de route circulaire autour qui délimite la ville. Et le centre-ville piéton est une sorte de centre-ville basé autour d'un grand marché qui est dévasté, comme un marché d'après-guerre, de casinos pas chers à un ou deux livres la mise maximum, de pubs bas de gamme où les gens viennent à partir de midi et on sort très tôt à 20h parce qu'ils sont déjà trop alcoolisés. Et dès qu'on sort en fait de ce ring, on est quasiment tout de suite dans la campagne, dans les marécages. On a un New Northampton qui est annoncé depuis une dizaine d'années, qui est une sorte de ville nouvelle, université, qui serait délocalisée de Londres, qui a du mal à se construire. Donc on voit les bâtiments qui attendent depuis plusieurs années à être finis. Et de l'autre côté de la ville, il y a tout l'ancien centre industriel, puisque Northampton a un savoir-faire, qui est le savoir-faire des tanneurs. C'est les plus gros tanneurs en fait d'Europe. Et c'est la seule activité en fait industrielle encore en vie, mais au beau milieu de grands ensembles de briques rouges qui ont été abandonnés. Donc moi, quand j'étais à Northampton, par exemple, j'ai croisé dans le seul hôtel correct de Northampton un Japonais en fait qui vient prendre son cuir uniquement à Northampton et qui vient là une semaine choisir ses cuirs. Il sort pas de l'hôtel autrement, il trouve ça trop dangereux. Et il passe ses journées et toutes ses chaussures, j'ai été le voir à Tokyo par la suite, toutes ses chaussures sont faites avec le cuir de Northampton. Et ces tanneurs d'ailleurs ont, pour l'anecdote, hein, ces tanneurs ont choisi un ambassadeur, c'est Alan Moore. Donc quand vous croisez Alan Moore, il a toujours des chaussures en serpent violet, totalement délirantes et décadentes. Et il y a un modèle Alan Moore, il lui en offre 3 ou 4 par an comme ça, à sa taille.
J'ouvre au hasard l'exégèse, je lis, je viens de me rappeler que j'avais fait un rêve extraordinaire. Je me retrouvais, moi ou le personnage du rêve, en totale privation sensorielle. Aussitôt, il se mettait, ou son esprit se mettait, à combler ce vide, cette absence de monde, à l'aide d'un monde factice auto-engendré, afin de ne pas devenir fou. Si on devient fou dans un monde, il faut immédiatement foncer dans un autre monde.
Moi, ce que j'entends dans ce passage, comme dans bien d'autres passages, c'est que il ne peut pas y avoir que cela. Lui parle de privation sensorielle. Moi, par métaphore, je dirais une privation de sens, enfin de sens au sens pas de la perception, mais de la signification. Si le monde a si peu de sens, c'est qu'il doit forcément y avoir autre chose ailleurs. Soit dans l'âme, dans Dieu, soit alors dans un autre univers qui serait caché derrière, plus loin, difficilement accessible ou inaccessible peut-être. C'est, pour moi, ce rêve symbolise un peu ce questionnement-là chez Philippe K. Dick.
On sait par exemple aujourd'hui que l'essentiel de la masse de l'univers n'est pas visible. Et ça étonne beaucoup. Je dis, mais c'est incroyable. Ben finalement, je trouve ça...
On croit qu'on voit tout, qu'on peut tout voir.
Ben oui, donc finalement, c'est pas si incroyable que ça. Je trouve que ce qui serait étrange serait précisément qu'il n'y ait pas d'invisible.
Ben oui.
Que l'essentiel nous échappe, ben, je crois que les mystiques le savent depuis longtemps. Et finalement, il n'est pas si étrange que la physique se rallie à, en quelque sorte à ce lieu commun.
On travaille avec des fantômes.
On travaille avec des fantômes. D'ailleurs, le terme est utilisé en ce moment en physique contemporaine. On parle de champs fantômes, qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'ils sont instables. On parle d'énergie fantôme parce qu'il est possible que l'accélération de l'univers nous mène à une sorte de grande disruption, c'est-à-dire à ce que les distances deviennent si gigantesques et même infinies qu'en quelque sorte tout se désagrège. Ce sont des modèles alternatifs et un peu exotiques. Mais oui, il y a du spectral dans la pensée, et tant mieux, parce que le spectral, c'est ce qu'on voit sans vraiment le comprendre, et c'est surtout, je crois, ce qu'on ressent sans pouvoir le toucher. Et ça, c'est important, parce que dès lors qu'on matérialise, que ce soit en un sens littéral ou un peu symbolique, on s'approprie. Et la spectralité, moi je pense, c'est un mode d'être, de concevoir, d'appréhension, où finalement, il y a encore quelque chose dont on sait que c'est là, mais dont on sait que nous ne pouvons pas encore nous l'approprier. Voilà. Nous ne pouvons pas encore le serrer, l'embrasser, donc éventuellement même le détruire. Et c'est l'altérité. Voilà. C'est une forme peut-être radicale de l'altérité, mais penser l'altérité, je crois que c'est le grand défi de notre temps.
Le secret est-il en lien avec le temps et l'inversion du temps ? Avec la résorption cosmique ? J'ai vu juste dans mes textes. La réalité est comme ces coffrets chinois qui s'emboîtent. Un coffret contenu dans un autre, lui-même contenu dans un autre, et ainsi de suite. La série s'achève quand on arrive à Valis, mais quant à savoir qui est ou ce qui est Valis, je n'en ai aucune idée. Le Tao, Yahvé, le Christ cosmique, Brahman, Shiva, Krishna, ou un événement quantique ? Ou la Roua, l'esprit divin suscitant la création d'un souffle à partir de rien, ex nihilo. Pour finir, on obtient le non-être, c'est-à-dire le n'est pas réel ou est n'est qu'apparence, n'est pas réel. En ouvrant les coffrets les uns après les autres, on s'élève à travers les niveaux successifs de l'être, esse, substantia, einai. Et puis, quand on ouvre le dernier, on trouve rien.
Tout devient fantomal dès lors qu'on accepte que notre manière de le faire fonctionner est une parmi d'autres. Il me semble que, là tu es en face de moi, en chair et en os, je vois un homme dans le studio, mais je pense que pour les bactéries qui sont en train de pulluler sur tes bras, tu n'es pas un homme, tu es l'univers, tu es le cosmos entier, tu es la totalité du monde possible. Et finalement, ce qui fait, me semble-t-il, ta spectralité pour moi, c'est la conscience de ce que j'appréhende de toi, n'est finalement qu'une part infime de ton multivers propre, dont toi-même d'ailleurs tu n'as certainement pas conscience, et c'est ça qui est important. Beckett disait: nous sommes faits des mots, mais des mots des autres. C'est très important, nous sommes faits des mots des autres, et pas seulement des mots. Moi je crois aussi, puisque je m'intéresse beaucoup à la question de l'animalité, qu'il y a des mondes sans mots, contrairement à ce que dit Goodman. Chaque pensée, qu'elle soit verbale ou qu'elle ne le soit pas, participe à une création mondiale.
This was part of the texture of my life growing up, and there were still enough people around when I started Jerusalem. There were still some people who were still alive.
Personne n'entre chez lui.
Même pour moi.
Est... Surtout pas, non. Je le soupçonne fortement d'avoir une sorte d'accumulation compulsive de tout objet culturel qui passe... assez proche de ses mains, livres, disques, etc., dans une maison dont la porte est un énorme serpent en bois entrelacé. Il habite une toute petite maison, d'ailleurs, ouvrière.
Qu'est-ce qu'il fait de ses droits d'auteur ?
En fait, il a soit renoncé à ses droits d'auteur par raison politique, quand, par exemple, Watchmen, la BD qu'il a co-créée, il n'avait pas le droit intellectuel de dire non, on n'en fait pas un film. Donc, à partir du moment où l'éditeur... a décidé de vendre les droits pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Il a dit qu'il ne voulait pas toucher un centime. Et il a fait ça sur chacune des adaptations de films. Et il y a quand même Watchmen, il y a V pour Vendetta, il y a From Hell. Donc bon, ça représente, à mon avis...
Un pactole.
Un gros pactole, oui. Et autrement, il le cède tous les droits à des associations locales, en fait. D'aide à l'alphabétisation, etc., quoi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vit, qui n'a jamais changé de mode de vie, en fait, tout simplement, malgré le succès, malgré... C'est quelqu'un d'ancré localement, en fait. Il se balade dans les rues, tout le monde le connaît, du clochard à la vieille dame, en passant par l'épicier.
C'est un anarchiste ?
C'est un anarchiste proclamé, oui. Ouais. Pour lui, il ne devrait pas y avoir de frontières, ni de nations, ni d'état-nation, mais plutôt des accumulations de communautés qui interagissent de manière bienveillante entre elles quand elles en ont besoin et quand elles en ont envie.
Après avoir décliné l'offre d'écrire la novélisation de Blade Runner, pour pouvoir écrire le roman que j'intitule pour l'instant L'évêque Timothy Archer, alors qu'il ne me rapporte que 7 500 $, le fait d'avoir décliné cette offre donc est une avancée spirituelle à double titre. 1. Parce que je refuse l'argent. 2. Parce que j'écris l'évêque Archer à la place. Mes aspirations spirituelles ont été passées au fer rouge de la tentation et ont triomphé de l'épreuve.
Est aussi un multi-rêve. Et c'est pour ça que l'intuition est indispensable.
Multi-rêve. Il y a un livre de Jean-Philippe Cazier qui est inspiré apparemment par ton travail.
La multitude, elle n'est pas seulement dite. C'est qu'en fait, et c'est là où ça reprend peut-être ton idée d'une infinité d'infini ou d'une multiplicité d'infini, c'est que cette multitude, elle est elle-même stratifiée. Moi, je pense que c'est ça qui se déploie dans ce travail, au-delà de sa qualité poétique, parce que il y a des multitudes à tous les niveaux. Et en fait, là, Jean-Philippe a essayé de s'enfoncer dans un niveau différent de celui qu'on appréhende habituellement, de celui dans lequel je travaille avec la physique, qui est effectivement le niveau de cette pensée du rêve qui est vraiment intéressante, parce que elle est à la fois structurée par l'expérience, on rêve à partir de ce qu'on a vu, on rêve à partir des maisons, des voitures, des arbres, des animaux, de l'amour, on rêve à partir de ce qu'on vit, et en même temps, on échappe à la logique causale de ce qui détermine notre quotidien, et il a montré finalement que cette strate-là était à la fois très diversifiée et très liée, très poreuse aux strates qui nous sont familières.
Dans ce livre, Théorie des multirêves de Jean-Philippe Cazier, il note effacé. C'est l'écriture, écrivit Lovecraft dans son livre le plus étrange, étranger, Das Sensible Chaos, je prononce mal, le chaos sensible j'imagine. Lovecraft affirme qu'écrire c'est effacer. Il ajoute, c'est comme mourir. Au fond, le vrai travail qu'on a à faire c'est d'être de bons effaceurs quelque part.
Bah oui, parce que il y a toujours une logique du palimpseste, il y a toujours une logique de presque d'une sémiotique en fait, une logique du signe. Avec mon ami Jean-Clé Martin, le philosophe, je crois qu'on s'était amusé à inventer le mot chaosphère, qui était un peu une paraphrase de Deleuze qui travaillait sur la chaosmos. Et je crois que c'est vrai, parce que le désordre, on arrive à l'appréhender quand justement quelque chose est mort.
Il écrit: quand je crois, je suis fou. Quand je ne crois pas, je souffre de psychose dépressive. Donc, il faut choisir entre la folie et la dépression.
Un éclair de lucidité qui sert à, justement, aborder la question de l'absence de lucidité.
Il y a en fait une interrogation sur la place de l'homme dans l'univers, non ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est petit ? Est-ce qu'il est grand ? Est-ce qu'il est... Même pas.
Je pense que chez lui, tout tourne autour de lui, quand même. Tout part de lui et tout y revient. C'est quelqu'un qui était extrêmement narcissique, tout le monde le dit, mais dans son raisonnement aussi, il est quand même au centre de tout. Dans les passages les plus délirants, c'est je suis Dieu, ou je suis l'univers. Bon, après, ça, ce sont des symptômes un peu excessifs. Il y a des moments où il est beaucoup plus modeste, mais c'est quand même quelqu'un qui ne généralise pas à outrance et qui ne raisonne pas, qui a des raisonnements très vastes, très 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 ambitieux, mais toujours à partir de lui ou pour revenir à lui.
Il est tout le temps dans le doute.
Oui, Ça, il suffit de lire ses romans ou de n'en lire qu'un même. On verra que c'est quelqu'un qui remet tout en question tout le temps.
Donc la réalité, il n'y en a pas ?
Bah déjà, on n'est même pas sûr, oui, que ça existe. Et puis, si ça existe, c'est quoi ? Et est-ce que c'est la même pour tout le monde ? Enfin, ça, c'est des questionnements qui ont 2000 ans. Il le savait très bien, de toute manière. Il y fait constamment allusion aux philosophes de l'Antiquité.
Il est plutôt dans la fiction que dans la science.
Ah, ça, c'est complètement du côté de la fiction, oui. Même si pour lui, sa fiction, finalement, était peut-être plus vraie que le vrai.
Nous sommes issus d'une civilisation qui s'est structurée par sa phobie du chaos. On le voit évidemment dans toutes les religions du livre, puisque Dieu est l'unique, mais on le voit aussi avec nos histoires philosophiques, puisque même dans la dialectique ascendante, par exemple, du banquet de Platon, eh bien, il y a convergence des essences. À la fin de la dialectique, le beau égale le vrai égale le bien, et on va toujours vers l'unique. Et au-delà de la philosophie et de la religion, tous les mythes fondateurs commencent par un affrontement du chaos, les métamorphoses d'Ovide, même les métamorphoses d'Ovide, qui pourtant sont une pensée du multiple, commence par un affrontement du chaos et par une finalement le chaos est le nom de l'opposé du monde. Même les Égyptiens qui là aussi ont pourtant, moi je trouve, étaient finalement beaucoup plus subtils que les Grecs sur beaucoup de concepts, avaient une peur phobique du chaos et Maat est précisément là pour rétablir l'ordre. Et je crois que quand on conjoint cette éventuelle pensée du désordre au sens littéral avec sa prolifération, donc le multiple que tu évoquais, eh bien, en effet, ce qui peut se passer, si on le fait avec nuance, c'est de contrer le risque nihiliste. Et donc, il y a peut-être un espace pour penser.
It was a symbol of my sense of alienation from my own country's culture.
C'était quoi son expression, si ce monde ne vous convient pas, essayez d'en imaginer quelques autres.
Vous devriez voir les autres, l'air de dire, finalement, on n'a peut-être pas tant à se plaindre, parce que les autres mondes...
Vous croyez que c'est ça la signification?
Oui.
Parce qu'on pourrait imaginer, si ce monde ne vous plaît pas, vous avez qu'à en construire un autre à votre...
Non, je crois que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Je pense qu'il voulait dire les autres sont pires.
Than there had been in the previous election. And I think that this has made people misunderstand
whispered stories between grown-ups about
c'est une voix d'acteur ou uniquement d'écrivain?
Non, c'est une voix de conteur, je pense. C'est même si la métaphore du griot est toujours un peu galvaudée, ça tient avec l'idée d'histoire orale, c'est-à-dire que lui, il est né dans des familles où la parole était centrale, où tout se transmettait oralement parce qu'il ne savait pas écrire, il ne savait pas lire. Et je trouve qu'il a gardé, et dans sa diction, et dans son approche littéraire, cette dimension d'histoire orale que lui, il s'est quasiment dévoué pour la fixer sur papier avant que cette oralité disparaisse à tout jamais.
In the sense that I actually believe everything to be.
C'est un magicien.
Oui, alors, un jour, ivre, à son anniversaire, on lui a parlé d'une divinité grecque, dont le symbole était un serpent avec une grande mèche blonde qui lui tombait sur le front. Et qu'il avait trouvé l'idée absolument géniale et qu'il avait promis de devenir magicien dès le lendemain. Donc une fois la gueule de bois passée, il s'était renseigné sur cette divinité qui effectivement dans l'Antiquité grecque était une sorte de divinité animale qui permettait qu'on consultait pour rendre la justice, pour demander un avis en fait. Donc voilà, donc il dit qu'il est le dernier adorateur de Glycon, cette divinité serpentine, mais il le dit aussi avec beaucoup de distance, d'humour et d'ironie.
Nietzsche a ouvert quelque chose, me semble-t-il. La philosophie occidentale, en particulier française, de la deuxième moitié du XXe siècle, a construit, et déconstruit bien sûr, à partir de cette brèche. Et quelque chose a eu lieu ensuite où on a eu très peur. Et je ne comprends pas pourquoi on a eu si peur, parce que je crois que ce qui se jouait là n'était pas du tout un déni des exigences, de rigueur, d'honnêteté, de précision. Je crois que c'est exactement l'inverse, en fait, parce que précisément, il y avait une manière de faire face à l'irréductible complexité du réel. Et pour conjurer cette peur, nous n'avons pas décidé d'aller plus loin dans l'investigation. Nous avons décidé de simplifier, mais non pas le réel lui-même, parce que ça, on peut rien y faire. Il est ce qu'il est. Nous avons décidé de simplifier notre manière de le penser et de le représenter. Et ça, ça donne lieu à quoi? Ça donne lieu à toutes les polémiques qu'on voit aujourd'hui où finalement chacun est absolument certain de détenir la vérité, de camper sur ses positions et évidemment être outré des positions adverses, parce que nous avons une sorte de phobie du chaos intrinsèque du réel qui fait que il faut le caricaturer. Évidemment, toutes les caricatures sont des offenses et sont des violences. Et le multivers fait peur pour cette raison. Certains scientifiques le qualifient de « not even wrong », même pas faux. C'est tellement bête que c'est même pas faux. Il faudrait ne pas même envisager la légitimité de l'idée. C'est une violence extraordinaire comme argument. Il se pourrait que le multivers soit une erreur. Je n'ai absolument pas le fin mot sur cette affaire.
On mais le fait de l'avoir, même nos arrière-descendants ne l'auront pas, si.
Je ne sais pas, parce que.
En fait, on peut.
Ça, il y a des tests indirects, ouais. Et finalement, ouais. Le test n'est pas forcément le critère ultime. Ce qui compte, c'est le sens. Sera-t-on capable de faire du sens à partir de ça? Sincèrement, je ne sais pas. Et il est fort possible que nous revenions en arrière. Mais enfin, nous ne saurons, c'est une aporie. Hein. Aporos, c'est le chemin qui s'arrête.
Oui, mais
nous ne le saurons que quand nous aurons exploré le chemin. Et là, je suis un peu effaré par la timidité, finalement, intellectuelle, qu'elle soit dans tous les champs disciplinaires, qui veut que nous n'employions que les chemins dont nous savons d'avance, comme dirait le philosophe allemand maudit, qu'ils ne mènent pas nulle part. Nous ne pouvons pas savoir d'avance qu'il ne mène pas nulle part.
Ce message comme quoi il y a un au-delà transcendantal, je ne sais pas comment on dit, comme vous avez passé plusieurs années à le traduire et à vivre avec, il passe ou pas ce message?
Ce message n'était pas censé passer à travers l'exégèse qui n'était pas censé être publié. Et le message, il est censé passer à travers ses romans, enfin ces textes en général, mais c'est une découverte rétrospective chez Philippe Kadic. Il s'est dit vers la fin des années 70, mais oui, mais bon sang, bien sûr. Voilà ce que j'ai voulu dire en fait dans Ubique, dans Le Dieu venu du Santo, ou dans, enfin, rétrospectivement, il s'est dit, j'ai voulu faire comprendre aux gens que il ne faut pas se fier à ce qu'on voit, ça n'est pas forcément la réalité, la vérité. Il faut essayer de voir plus loin. La vérité est ailleurs, comme on dit. Et voilà, je pense que c'est à travers sa fiction, hein, en fait, qu'il a.
Je pense à un titre d'Aurélien Barreau, qui n'est pas son titre, puisqu'il a fait un livre qui s'appelle Chaos multiple, mais il nous dit que ça a failli s'appeler Ivresse de la vérité, qui est un joli titre. Est-ce que Dick pouvait avoir cette ivresse de la vérité?
Oui, mais je pense qu'il ne la trouvait jamais. L'ivresse, elle était dans la quête de la vérité. Je ne sais pas ce qu'en dit Aurélien Barreau, mais pour Philippe Kadic, c'était, oui, une ivresse, certainement, dans la recherche dans la recherche de tous ceux qui, comme lui, avait eu une révélation, et de là, avait cherché à comprendre, à percer le mystère de l'univers. Et c'est ça qui l'enivrait, en fait. C'était collecter tous les textes qui avaient pu être écrits sur cette quête de la transcendance, et les faire siens, et construire, à partir de ce corpus, un système qui soit le sien, avec peut-être même une ambition de rester comme celui qui aurait inventé un nouveau système métaphysique, où chaque chose aurait sa place et sa fonction, un système. Et là, ça, il en était enivré.
Par exemple, quand je suis à Tokyo, le soir, la ville est ivre. La ville tangue. C'est-à-dire que tout bouge de quelques degrés. Vraiment. Il y a quelque chose de physiquement dingue. De voir un monde aussi fixé, aussi réglé, déraper légèrement, juste vraiment tangué, pas déraper, tangué. La ville de Northampton, je la trouve pas ivre parce qu'il y a... Elle est fixe, en fait, elle bouge pas, quoi. Elle est vraiment... elle est hors temps, elle a l'air tellement loin de Londres et de ses préoccupations, alors qu'on est vraiment littéralement à 25 minutes de train. C'est quasiment une capsule de temps.
Pourquoi aujourd'hui on écrit sur le chaos? Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que c'est un retour de bâton. Parce que nous vivons dans un monde qui est extraordinairement normatif. Parce que, on le voit, la société qui nous entoure a peur de l'exploration. Elle a peur de l'étrange. Elle a peur de l'autre. Elle a terriblement peur de l'autre, avec des conséquences d'ailleurs politiques, humaines, qui sont désastreuses. Les gens meurent à cause de cette peur de l'autre. C'est pas drôle, ça. Et donc, je crois que dans cette situation, il faut absolument ouvrir vers la possibilité de ce désordre par rapport à notre ordre propre. Mais en même temps, si on le poussait à l'extrême, et qu'on vivait dans ce que Deleuze et Guattari appelaient cette espèce de magma comme ça des vitesses infinies, mais on mourrait parce qu'il n'y a plus de forme vitale dans ces vitesses infinies. Ces vitesses infinies, c'est quasiment ce que Deleuze appelait l'enfer. Il voulait réussir là où Orphée avait échoué, c'est-à-dire revenir des enfers. Et j'aime assez cette image deleuzienne du désordre comme étant un réservoir de possibles. Il faut aller chercher des possibles dans le désordre, mais à un moment, il faut quand même en revenir, parce que dans le désordre pur, nous n'aurions pas cette conversation. Nous n'aurions pas la beauté et nous n'aurions pas l'amour. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il n'y a que ça de vrai. Pour autant, je crois que c'est indispensable.
Firm and convinced socialists.
Alan Moore.
During the 1960s, when I think that they would have still been.
Il n'a pas de passeport et il ne peut pas sortir d'Angleterre. Et vu sa consommation de stupéfiants, il est obligé d'être en voiture. Il ne peut pas prendre le train, il fume tout le temps.
Mais que des stupéfiants, parce qu'il a ressenti de le voir allumer des cigarettes ordinaires.
Ah non, c'est que des pétards, là.
C'est que des pétards,
ouais. Très long, pur. Pas coupé, quoi. Mais Northampton fait partie de ces villes où... d'ailleurs, c'est pas loin d'être valable pour Paris. Où tout le monde prend quelque chose. Que ce soit du médoc, de l'alcool, de l'herbe, on voit que tout le monde est dans un état un peu décollé du réel quand même.
C'est quoi, c'est la mélancolie?
Je ne sais pas si c'est la mélancolie, mais la tristesse de la ville est hyper forte. Et je comprends tout à fait.
Faut être dans un lieu comme ça, en voie de disparition, pour pouvoir créer peut-être.
Je ne sais pas si... c'est un romantisme réel ou non, effectivement, que le lieu doit être fort pour faire ce genre d'œuvre. Honnêtement, quand on est à Northampton, on n'imagine pas les Watchmen. Donc il n'y a pas de rapport réel, par exemple, entre une certaine partie de son œuvre et le lieu d'où il écrit. Sur Jerusalem, bien sûr, il faut être dans un endroit comme ça. C'est un endroit assez fort, hein, aussi bien les églises moyenâgeuses. C'est le coin où il y a le plus d'églises moyenâgeuses en Angleterre. Pour ça, l'idée de centre du monde aussi. On est dans les marécages.
Son livre se passe d'ailleurs parfois au Moyen-Âge.
Oui, bien sûr, ouais. Il y a des allers-retours. C'est un ascenseur temporel constant. Il y a les anges, il y a plein d'allusions comme ça. Mais ce qui est amusant, c'est quand on va voir l'archevêque du Saint-Sépulcre de Northampton, il a lu Jérusalem, qui est absolument un livre... Pas un livre catholique, hein, spécialement ni protestant ni grand. Et il est fier de que son église soit au centre de ce livre païen absolu. Et voilà, c'est aussi ça l'idée de communauté. Quand on se balade à Northampton, c'est une communauté invisible d'une génération ouvrière qui a tellement souffert et qui est obligée d'essayer de reconstruire petit à petit quelque chose. Quoi.
Vous êtes jamais ennuyé à traduire ces 1800 pages?
Ah non, on ne s'ennuie pas à traduire l'exégèse parce qu'on ne sait jamais dans quelle direction elle va partir, premièrement, et d'autre part parce que les anthologistes américains ont déjà procédé à une sélection en éliminant les répétitions, les redites plutôt, et les passages les moins compréhensibles, peut-être parce que rédigé à un moment de trop grand délire ou de trop grande ivresse. Ivresse au sens très large, pas alcoolique en tout cas, pas une ivresse alcoolique. Philippe K. Dick avait une pancréatite aiguë, c'était pas possible pour lui d'être alcoolique. Déjà qu'il est mort à 53 ans, là, il aurait eu encore moins de chances de survie.
Il fallait peut-être qu'il meure, non ? Après tout ça.
Ça signifierait qu'il avait tout dit. Mais ça, on ne saura pas.
On a envie que ça ne s'arrête pas.
On est content de constater que c'est sans fin, en fait. On peut poursuivre les voies. On peut s'engager dans les voies qu'il indique et ne jamais revenir.
Comment ça t'est venu, cette idée de t'intéresser à l'univers ?
Oui, c'est toujours très difficile de retracer la généalogie d'une passion et de comprendre ce qu'a été sa motivation première. Moi, je crois, mais je sais pas en fait, peut-être que je le réinvente a posteriori de façon un peu trop intellectualisée. Donc je sais pas si c'est vrai en fait, mais j'aime me raconter l'histoire suivant laquelle c'est vraiment le rapport à l'altérité. Et j'avais l'impression, à tort ou à raison, mais quand j'étais adolescent, j'ai eu d'un seul coup l'impression que la physique c'était l'altérité radicale. Que la poésie, l'art, la religion, ça m'intéressait énormément, ça m'intéresse toujours énormément. Mais que ça a toujours une petite dimension narcissique, parce que quand on regarde un tableau, finalement, on s'émerveille d'un homme qui peint, et un homme, c'est toujours presque moi, même s'il est beaucoup plus génial que moi. Quand on regarde l'univers lointain, là, on est vraiment aux prises avec quelque chose qui est tout à fait, non seulement différent, mais aussi imprévisible.
Il a un grand bâton.
Une canne de serpent, ouais.
Et c'est du velours, sinon.
Ouais.
C'est un dandy.
Je sais pas. C'est un dandy ouvrier, ouais.
Est-ce qu'on a raison de croire à des formes de vie extraterrestres ?
Bah, je ne sais pas. Je ne sais même pas vraiment ce que ça veut dire que des formes de vie extraterrestres, parce que pour donner sens à cette question, il faudrait définir la vie, et il faudrait la définir non pas en extension à partir de ce qu'on a autour de nous, mais la définir en intention, c'est-à-dire à partir d'un concept. Et ça, je crois qu'on ne sait pas le faire. Mais si
on est incapable d'imaginer une autre forme de vie que la nôtre.
Bah, on essaye de le faire, mais comme on ne le fait que par extrapolation, c'est très difficile, là encore, de penser l'ailleurs radical. Mais si on ne chipote pas sur les mots et qu'on répond de façon pleine, entière et intuitive, moi je crois aujourd'hui que c'est très difficile de se penser seul. Le nombre des galaxies, le nombre des étoiles, le nombre des planètes fait que même si les probabilités d'apparition du vivant sont infimes, multipliées par un nombre gigantesque, presque un infini, comme tu le disais tout à l'heure, vraisemblablement, quand bien même il s'agirait d'un miracle, ce miracle s'est très probablement reproduit.
Tout, par Christian Rosset, avec Aurélien Barraud, Hélène Collomb, Jérôme Schmitt et les voix de Philippe K. Dick et Alan Moore. Production coordination, Chouchan Djergaïan, Irène Omedianenko. Mixage, Éric Boisset. Réalisation, Gaël Gillon.
Podcast un an et écoute en ligne à vie sont possibles sur notre site. Demain, dans Création On Air, Le Loup façon Canis lupus belgicus par Hervic d'Olivier et Guillaume Abgral. Façon musicale par Jean-Louis Bosseur, Didier Pemerle et Christian Rosset.